Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Donald Trump a pris en réalité tout le monde de court hier. Il a annoncé qu'il fermait l'entrée de son pays aux ressortissants européens pour une durée de 30 jours. Après avoir sous-estimé la menace, le chef de la Maison-Blanche a choisi une mesure radicale contre ce qu'il appelle encore le virus étranger. Bruxelles a condamné cette décision. Les bourses du monde entier se sont effondrées, y compris Wall Street. Face à cette pandémie mondiale, comme le dit maintenant finalement l'OMS, les grandes puissances jouent pour l'instant chacune leur partition. À chacun sa stratégie pour contrer l'épidémie, à chacun ses mesures économiques pour contrer la crise. Cet après-midi, la Banque Centrale Européenne a appelé à une réponse coordonnée. La France, de son côté, attend la parole du président, ce sera ce soir à 20h, et peut-être un renforcement du dispositif de lutte contre le virus. Le monde se ferme, mais jusqu'où cela peut-il aller? Pourquoi Donald Trump a choisi de cibler l'Europe? Peut-il y avoir un front commun, concerté, pour encaisser le choc mondial? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. Citons votre blog Trump Power. Rappelons votre billet, c'était un mois sur votre blog qui posait déjà la question, la réélection de Trump peut-elle être menacée par la crise du coronavirus? Thomas Negaro, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po Paris. On vous retrouve tous les dimanches dans C'est Politique. Je rappelle ce soir votre livre, L'Amérique et son président, une histoire intime, publié chez Dunod. Sophie Villers, vous êtes économiste, spécialiste de la zone euro. Nous reviendrons avec vous sur les annonces aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne. Lucie Robquin, vous êtes rédactrice en chef internationale au journal Les Échos. Vous êtes ancienne correspondante à New York. Citons votre éditorial d'hier intitulé « Virus, l'Europe qui protège ». Ou pas, nous y reviendrons dans le détail. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Donald Trump qui ferme ses frontières, c'est une mesure spectaculaire et qui ferme ses frontières en direction des Européens.
Oui, c'est moins la mesure qui est contestable que la méthode et en fait que le processus de décision. Parce qu'en fait, les États-Unis, grande puissance parmi les grandes puissances, s'il y a bien des relations quasiment quotidiennes, régulières, qu'elle peut avoir avec le reste du monde, c'est l'Union européenne, c'est les Nations unies, c'est le G7 que les États-Unis président en ce moment, cette année. Et donc on se dit, la moindre des choses, effectivement, aurait été de prévenir, ce qu'on appelle de notifier, mais certainement pas d'agir comme ça sans prévenir.
Il a dit qu'il n'avait pas le temps.
Oui,
non, mais il a dit, je ne les ai pas prévenus, ça prend du temps.
C'est évidemment une excuse qui ne tient pas, mais c'est une façon pour lui de marquer la souveraineté des États-Unis, le fait qu'on n'a pas à consulter les autres avant de prendre une décision. Et en fait, ça lui ressemble étonnamment. C'est comme ça qu'il a pris pratiquement toutes les grandes décisions internationales. Il les a faites sans prévenir, que ce soit sur la Syrie, que ce soit sur le climat, que ce soit sur bien d'autres thèmes. C'était toujours moi d'abord, moi tout seul, et éventuellement après les autres. Donc, pour nous, Européens, c'est extrêmement compliqué d'avoir à gérer non seulement la crise en cours, qui est une crise sanitaire mondiale, et une crise économique et financière qui n'en est qu'à son début, si en plus de ça, il n'y a même pas le moindre respect, j'allais dire d'une forme de protocole de concertation, on ne demande même pas de coordination, mais de concertation, oui, effectivement, c'est un souci en plus à régler.
Il ajoute à la panique en prenant cette décision-là. Quand on regarde la clôture des marchés financiers, c'est assez spectaculaire. Le CAC 40, c'est la plus forte chute de son histoire, à moins 12,28%. La bourse de Milan, à moins 16,9%. On peut aussi parler de Wall Street. Là, pour le coup, ça n'a pas rassuré les marchés financiers américains, la décision de Donald Trump.
Oui, mais les marchés financiers américains, me semble-t-il, sont dans leur réaction, ils réagissent d'abord à la situation mondiale, ils ont réagi ensuite à la chute des prix du pétrole, enfin à la décision des Saoudiens et des Russes, et puis ensuite, ils réagissent aussi, parfois, politiquement, c'est-à-dire face à une forme d'indécision, eh bien, ils prennent leurs responsabilités, ils se disent « oulala, on ne peut pas s'engager quand on n'est pas sûr de savoir où le président veut aller exactement. Donc, dans l'incertitude, on vend. » Et là, les mots qui ont été entendus par plusieurs responsables des grandes banques de Wall Street, y compris après leur réunion avec Donald Trump, c'était de dire « cet homme mène à une façon de gérer les choses erratique. » On ne sait pas où on va. Et donc, quand on ne sait pas, eh bien, on prend des mesures de précaution.
François Clémenceau dit « on ne sait pas où on va ». Précisément sur cette crise-là, il fait à chaque fois des allers-retours, oui. Il minimise et ensuite, il donne le sentiment de considérer qu'on est évidemment face à une crise mondiale.
Oui, le 28 janvier dernier, aux États-Unis, il y a une première publication dans la presse américaine où des scientifiques s'intéressent à cette question du coronavirus et disent qu'il faut prendre des mesures dans le pays. L'administration Trump n'y prend absolument pas intérêt à ce document-là. Dans les jours qui suivent, on a 5 premiers cas. Donald Trump nous dit « la semaine prochaine, il y en aura 0 ». Ensuite, il dit « ce n'est qu'une grippe, une genre de grippe, on meurt beaucoup plus que la grippe, c'est beaucoup moins grave que la grippe, en tout cas, il y aura moins de morts à la fin ». Il dit aussi aux scientifiques « il y aura un vaccin plus tard ». Il ferme quand même déjà les frontières à l'égard de ceux qui viennent d'Iran et ceux qui viennent de Chine. Donc ce qu'il fait là aujourd'hui aux Européens, il l'a déjà fait à d'autres. Moi, depuis le début, je me dis « comment ce type va gérer la crise ?» Quand on est nationaliste, donc quand on considère que la solution ne vient que des frontières, quand on est, allez, disons, sceptique vis-à-vis de la science, comment écouter les scientifiques qui vous disent « Monsieur le Président, il faudra peut-être plus d'un an pour faire un vaccin ?» Ben non, vous dites non, ça sera dans un mois. Donc là, il y a un problème aussi. Et ça, c'est le deuxième point. Et donc, la question vraiment se pose, c'est comment ce type peut gérer la crise? Et quand on sait en plus, et là, c'est plus du psychisme, c'est vrai, qu'il est germaphobe, à savoir qu'il est ultra terrorisé par les germes, par les microbes, et qu'apparemment, aujourd'hui, personne ne rentre à la Maison Blanche s'il tousse en l'extérieur, même si on a appris aujourd'hui qu'il avait partagé un dîner ou un déjeuner avec le monsieur presse de Bolsonaro, qui est coronavirus positif, on l'a su ce soir. Donc, face à tout ce mélange de psychisme, de politique, d'idéologie, on attendait de voir. Et on a vu que c'est très chaotique. Un premier temps de minimisation, et d'un coup, parce que l'inaction était catastrophique, n'a pas du tout rassuré les marchés par exemple, on est dans une action démesurée, dans l'autre sens, en plus une action, alors pour le coup, qui est à mon avis très idéologique, parce qu'elle ne vise pas certains partenaires des États-Unis qui pourtant ont des cas de coronavirus, comme la Grande-Bretagne par exemple, ou quelques pays hors Schengen de l'Europe. Donc on a du mal à lire, et ce que François Clémenceau disait, le manque de cohérence est vraiment un indicateur très anxiogène pour les marchés, mais pas que pour les marchés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont un peu anxieux.
C'est du jamais vu. Ou est-ce que c'est arrivé que le président des États-Unis ferme son pays à des pays européens?
Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, je crois. En revanche, il y a une décision qui me semble assez proche. C'est celle qu'avait prise Richard Nixon en août 1971, quand il avait mis un terme au système de Bretton Woods. Il l'avait fait de manière unilatérale, sans prévenir les Européens qu'il avait découvert pendant qu'il le faisait. C'était un acte aussi d'indépendance nationale au profit de l'intérêt uniquement des États-Unis. On n'est pas de même nature, là c'est une décision, mais une décision unilatérale qui met les Européens dans la panade. Mmh. On l'a déjà vu il y a quasiment 50 ans.
Et on va voir qu'ils sont vraiment dans la panade, ouais. Les Européens. Stéphanie Villers, il a d'abord annoncé que cela concernait aussi les marchandises avant que la Maison-Blanche dise « non, 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 il s'est trompé, il y aura toujours des transferts de marchandises entre l'Europe et les États-Unis ».
Oui, après, effectivement, il a rectifié, c'est effectivement les transferts d'humains qui sont stoppés aux frontières. Et pour voir en fait que ces mesures ne sont pas des mesures sanitaires, mais c'est des mesures qui auront un effet économique, c'est-à-dire qui bloquent les frontières, mais pas au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, on sait très bien qu'il y a quand même des cas contaminés, donc on se doute bien que par cette mesure aussi, il essaye, tant bien que mal, de continuer à déstabiliser l'Union européenne. C'est son jeu depuis le début. Hein. Il a deux cibles favorites, c'est la Chine et l'Union européenne. C'est deux puissances qui pourraient aussi impacter, enfin, déstabiliser les États-Unis. Donc, dès qu'il peut, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'en sert.
Alors là, c'est important ce que vous dites. Il ne gère pas la crise sanitaire, il fait de la politique.
Ah, là, effectivement, parce que la crise sanitaire, à ce moment-là, il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni fait partie de l'Europe. Hein. Donc normalement, cette entité contaminée aurait dû avoir ses frontières aussi fermées, et ce qui n'est pas le cas. Donc là, ce qu'il veut, clairement, c'est de dire... Bon, eh ben, on va en profiter. J'ai une porte de ouverte. D'autant qu'il sait très bien que là, la bourse américaine est en train de le lâcher. Les ménages américains sont très investis en bourse, contrairement aux ménages européens. Donc ça, c'est un très mauvais signal qui est adressé en période électorale. Donc il faut qu'il essaye de chercher une autre porte de sortie en disant « je reviens sur mon protectionnisme, c'est ça qui va fonctionner par contre ». La maladie est déjà, l'épidémie est déjà aux États-Unis, et là, ça va être encore une autre paire de manches.
On va parler dans un instant. Quand il dit, on lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il a épargné d'une certaine manière la Grande-Bretagne, il dit « they are doing a very good job ». Donc en fait, ils font bien le job, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans cette catégorie de pays dont il faudrait
se protéger. Il y a 600 cas qui sont effectivement dépistés. Donc,
Sur cet aspect-là, Lucie Robquin, sur la décision de Donald Trump et les conséquences que ça peut avoir. Vous avez dit tout à l'heure, ça met les Européens dans la panade. En tout cas, on s'est réveillé ce matin en ayant peut-être encore
avec
plus peur.
Avec la gueule de bois.
C'est ça, qu'hier en se couchant.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision de Donald Trump n'est pas vraiment sanitaire, c'est une décision politique. On est à 8 mois de l'élection présidentielle et Donald Trump doit montrer qu'il reprend la situation en main, parce qu'il a été beaucoup critiqué jusqu'alors, et qu'il ressoude la population derrière lui. Donc pour ça, rien de tel que trouver un bouc émissaire, et effectivement, c'est l'Europe. Et ça a un autre avantage pour Donald Trump, c'est de jeter un voile sur les défaillances du système américain. Il faut savoir qu'il y a un quart des Américains qui, s'ils prennent un congé maladie, ne sont pas rémunérés. Donc autant vous dire que s'ils toussent, mais ils continueront d'aller au travail. Et environ 8% qui n'ont pas de sécurité sociale. Hein. Donc ça peut être potentiellement très grave pour les États-Unis et la crise est en train d'arriver.
Et même 44% d'Américains qui, dans l'année précédente, ne sont pas allés chez le médecin pour une blessure ou une maladie en raison du coût. Même ceux qui sont traités, ceux qui sont assurés, ne vont pas forcément chez le médecin. 44%. Donc des gens qui vont aller bosser malgré la toux et donc qui vont contaminer autour d'eux. Vous savez, on n'a même pas de chiffre officiel des États-Unis. C'est des estimations.
Sur le nombre de cas ?
C'est des estimations.
Il y a très peu de tests aux États-Unis. Il y en a eu un peu plus d'un millier, je crois, parce que les États-Unis n'ont pas financé les engins qui permettent de faire ces tests.
Juste sur la mise en œuvre pratique de cette mesure par Donald Trump, c'est pas rien quand on parle des États-Unis et de l'Europe de dire c'est terminé. Ça veut dire quoi ? Déjà, tous les ressortissants américains, là, dans l'urgence, doivent rentrer chez eux. Qu'est-ce qui est en train de se passer ?
Il reste là 24 heures pour les personnes présentes en Europe pour repartir aux États-Unis. Et oui, elles ne peuvent même pas passer par le Royaume-Uni. Si elles ont passé ne serait-ce qu'une heure au cours des 14 derniers jours dans l'espace Schengen, elles n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. Donc c'est effectivement dramatique, c'est du jamais vu. Vous disiez que c'était du jamais vu. Juste au moment de son élection, Donald Trump a décidé de fermer les frontières du pays à 7 pays musulmans. Donc quand même, il a une certaine... inclinaison à fermer les frontières du pays au bouc émissaire que représentent soit les pays musulmans, soit, en l'occurrence, les pays européens.
C'est la raison pour laquelle cette décision, elle n'est pas sanitaire, elle est politique et elle est peut-être encore plus idéologique dans la mesure où il y a certains pays qui sont isolés et surtout, il y a quand même quelque chose de très profond derrière, à mon avis, qui est de dire, nous les Américains, nous ne sommes que les victimes. Notre nation est pure, l'impureté vient de l'extérieur, alors que, regardez l'OMS, sur les cartes de l'OMS, l'Amérique aujourd'hui, les États-Unis sont considérés comme un foyer. Les germes, enfin le virus n'est pas étranger, n'est pas chinois, n'est pas européen.
Ils l'appellent comme ça,
depuis, on l'a dit depuis la grippe espagnole, les virus sautent les frontières, c'était il y a plus de 100 ans, et ils n'ont pas de nationalité.
En tout cas, Donald Trump a choisi de désigner les responsables, les Européens, et il l'explique, qui n'ont pas su se protéger de ce qu'il appelle le virus de l'étranger. Hier soir, dans le bureau ovale solennel, il a donc annoncé la fermeture des frontières de l'Amérique à tous les Européens. Résultat, les marchés s'affolent et l'Europe s'agace. Barbara Steck, Nicolas Baudry-Dasson.
Je n'hésiterai jamais à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et la sécurité du peuple américain. Je ferai toujours passer le bien-être de l'Amérique en premier.
C'est une déclaration qui restera dans l'histoire. Une mesure sans précédent. Cette nuit, Donald Trump a annoncé que les États-Unis fermaient leurs portes aux Européens.
L'Union européenne a échoué à prendre les mêmes précautions de restriction de voyage pour la Chine et les autres zones sensibles. Par conséquent, un nombre important de nouveaux foyers de contamination aux États-Unis ont été semés par des voyageurs venus d'Europe. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours.
Cette décision radicale pour endiguer l'épidémie de coronavirus rentrera en vigueur vendredi à minuit. Plus un Européen ne pourra alors mettre le pied sur le sol américain. Une mesure qui ne concerne pas le Royaume-Uni ni les marchandises. Changement de ton, donc, pour Donald Trump, qui dans un premier temps a minimisé, voire même parfois ironisé, sur la situation.
Je n'ai pas touché mon visage depuis des semaines. Ça me manque. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ça s'en ira en avril avec la chaleur, lorsque la chaleur arrive.
Un changement radical de doctrine de la part de Donald Trump qui fait suite à la déclaration hier de l'OMS, qui désormais considère l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie.
L'OMS évalue cette épidémie 24 heures sur 24. Et nous sommes profondément préoccupés, tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, que par les niveaux alarmants d'inaction.
Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants, fervente opposante à Donald Trump, vient de s'exprimer. Elle espère que cette interdiction d'entrée sur le territoire en vaudra la peine et demande au président d'aller plus loin.
On doit aider les familles maintenant parce qu'on ne doit pas diriger comme d'habitude, mais considérer que nous sommes en état d'urgence. Nous devons être à la hauteur.
À la bourse de New York, où les gestes barrières semblent être bien respectés, les financiers n'ont pas gardé longtemps le sourire. Moins 7,29%, le Dow Jones s'écroule à l'ouverture de Wall Street. La réponse américaine à la pandémie de coronavirus fait aussi plonger les bourses européennes. Une Europe prise de court qui condamne cette décision de Donald Trump.
L'Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d'imposer une interdiction de voyage ait été prise de façon unilatérale et sans consultation.
Une interdiction de voyager et partout les mêmes images dans les aéroports européens. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Donald Trump, les files se sont formées devant les comptoirs des compagnies effectuant des trajets avec les États-Unis comme ici à Roissy. Des touristes sur le départ, pour certains à peine débarqués de l'avion.
On avait déjà fait une heure de vol en partance de Salt Lake City lorsque nous avons appris la nouvelle. Donc maintenant, nous essayons de rentrer. J'espère que nous pourrons avoir un vol demain. On essaie juste de rentrer avant de ne plus pouvoir.
Près de 128 000 cas de Covid-19 ont été confirmés dans le monde. Un monde qui fait face à une situation et des choix inédits et qui se met ce soir encore un peu plus à l'arrêt.
Donc face au choc du coronavirus, cette question, pourquoi ne peut-on pas fermer les bourses mondiales le temps de l'épidémie? C'est vrai, quand on voit les chiffres et la panique sur les places financières, est-ce que c'est une option ou pas?
Si on ferme les bourses pendant un certain temps, tous les investisseurs vont se mettre en position de vendeur à partir du moment où les bourses vont réouvrir. Donc ça sera encore pire, ça ne changera rien. Hein, on attend, et on ne peut pas non plus mettre au chômage technique l'ensemble du système financier mondial.
On ne l'a jamais fait.
Au niveau mondial, non. En tout cas, je n'ai pas le souvenir que ce soit possible. Et de toute manière, ça n'arrangerait rien. Hein, il faut que l'information circule. Hein, et ça se traduit par des cours. Hein, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir combien cote le pétrole, parce qu'il faut quand même en acheter. Il faut savoir à combien on peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers, parce qu'on a besoin de cette liquidité pour faire face au travers aux effets collatéraux du coronavirus. Donc, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas faire abstraction des marchés financiers en disant pendant un certain temps, on n'en a pas besoin. On en a quotidiennement besoin.
Du coup, c'est contre-productif pour Donald Trump. On sait qu'il est très attaché aux places financières, et en particulier à ce que pense Wall Street et au soutien qu'il peut avoir de la part des acteurs essentiels de Wall Street. Là, après cette annonce, il imaginait une hausse, un rebond des marchés financiers américains?
Alors maintenant, il accuse la Fédérale Réserve, donc la Banque Centrale Américaine, en disant « mais vous n'avez pas assez fait, il fallait massivement baisser les taux d'intérêt ». Et là, les marchés financiers se disent qu'il y avait des déséquilibres avant le coronavirus sur les marchés financiers. Il y avait quand même… Les bourses étaient parties dans l'exubérance. Hein. On avait l'indice américain a été multiplié par 3 depuis la crise 2008, c'est-à-dire multiplié par 300%. Donc c'est complètement décorrélé de la situation économique des États-Unis. Donc, il faut retrouver la raison. Et donc, cette excuse permet au marché de reprendre un peu de souffle et regarder l'activité réelle, en fait.
Thomas Negroff.
Oui, c'est très juste. Et Lénine disait que les guerres accéléraient l'histoire. Le coronavirus accélère l'histoire. Donc, ce n'est pas des tendances qui n'étaient pas existantes, mais c'est des tendances qui sont accélérées. On évoquait une crise à la fin de l'année, des rééquilibrages progressivement d'ici peut-être 2021. En fait, tout est accéléré par cela. Mais les marchés, ils savent plus à quel sein se vouer, puisque Trump a tout tenté. Il a tenté d'abord, on l'a dit, de minimiser. Ensuite, il a poussé la Fed à baisser les taux, qui l'ont baissé massivement. De 0,5, ça n'a pas eu d'effet. 0,5 points, ça n'a pas eu d'effet. Maintenant, il joue la carte de « allez, on ferme tout, on joue tapis », ça n'a pas d'effet non plus. Le fait est qu'aujourd'hui, les marchés qui ne fonctionnent qu'à la confiance, parce que J'ai mis du temps à comprendre ça. C'est qu'en fait, les marchés sont irrationnels. Ils ne fonctionnent qu'en imaginant ce que les autres vont faire. Et à partir du moment où tout le monde pense que les solutions sont mauvaises, même si eux-mêmes pensent que c'est peut-être bon, pour ne pas être tout seul à avoir raison contre tous, parce que ce n'est pas très bon signe en général, eh bien, il y a un système, un modèle comme ça, qui se met en route, et on est ce qu'on appelle le bear market, c'est un marché baissier, et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et bien malin, celui qui pourra inverser la tendance, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre l'ascenseur pour descendre, pour remonter, il faudra prendre l'escalier.
Donc vous iriez jusqu'à dire que Donald Trump est pris à son propre piège et qu'il se trouve ce soir démuni?
Oui, puisque il a tellement joué le marché en permanence. La quasi-totalité des mesures qu'il a prises depuis le début ont pour objectif de faire monter la bourse de manière artificielle. Et on voit à quel point c'est artificiel aujourd'hui, comment cette bulle est en train d'exploser. 300%, c'est irrationnel par rapport à l'économie américaine, qui va certes bien. Mais on a vu, toutes ces aides, toutes ces baisses fiscales ont eu pour objectif que les gens ont racheté leurs propres actions. Donc la bourse a monté de manière un peu artificielle. Et c'était délirant. Donc, c'est pour ça que je commençais par Lénine et l'accélérateur de l'histoire. D'une certaine manière, le coronavirus, il a accéléré des rattrapages, certes qui auraient été évidemment moins brutaux et moins angoissants pour l'ensemble du monde, mais on en est là.
Non, c'est
François Clémenceau.
On ne se rend pas compte peut-être à quel point Donald Trump, sur cette histoire-là, joue sa peau, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a un mois, quand j'ai posé cette question, c'était avec un gros point d'interrogation, peut-il être réélu ou pas à cause du coronavirus? C'était parce que j'avais écouté Yann Bremmer, qui est un consultant américain, qui écrit dans Time Magazine, qui dirige Eurasia Group, et qui, à Munich, à la conférence de sécurité, posait ouvertement la question en disant « Vous allez voir, il y a quelque chose avec cette crise qui fait que Donald Trump, à un moment ou à un autre, devra mettre bingo, jouer cash, tout sur la table. » Et à cette époque-là, c'était assez facile. À la Maison-Blanche, on disait « Si jamais les choses durent, si jamais c'est grave, on accusera la Chine. » Et c'était une solution de facilité et qui correspondait peut-être pas forcément à la réalité. La preuve, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça ne concerne pas que la Chine. Mais à partir du moment où les chaînes d'approvisionnement du monde entier et des États-Unis étaient affectées par la crise, c'était assez facile de dire « c'est la faute des Chinois, regardez ce régime totalitaire qui enferme des millions de gens et qui bloque le monde entier ». Là, cet argument ne vaut plus. Et donc, il faut trouver effectivement, comme on a dit tout à l'heure, un autre bouc émissaire pour pouvoir tenir, pour pouvoir dire « moi, j'ai tenu mes promesses, moi, j'ai fait en sorte que l'économie aille bien, que le chômage soit au plus bas de façon historique, que la bourse soit extraordinairement bonne pour les Américains ». Comme cette recette-là ne peut pas tenir, eh bien, il faut trouver des mesures politiques qui puissent rassurer les Américains, alors que, précisément, la campagne électorale, elle aussi, s'accélère, parce qu'on aura probablement un quasi-nominé démocrate dans 15 jours, probablement.
Lucie Repquin, juste pour faire suite à ce que dit François Clémenceau, rassurer les Américains, est-ce que ça a marché?
Pas du tout.
Parce que les Américains, ils ont vu, je termine ma question, ils ont vu que la NBA avait été suspendue, ils ont vu que des acteurs aussi populaires que Tom Hanks et son épouse étaient contaminés. C'est ça qu'ils ont vu, les Américains, ce matin.
Je pense qu'il y a une immense opportunité pour l'opposition, au contraire, de jouer sur ce coronavirus. Et je pense que le coronavirus est une des seules choses qui peut faire perdre Donald Trump en novembre. Parce qu'il a toujours minimisé ses questions de santé. Il a encore réduit drastiquement les dépenses de santé l'an dernier et l'année précédente. Et là, vous avez Joe Biden qui va prendre la parole ce soir et qui va dire, ben voilà, la priorité du camp démocrate, c'est de défendre tous les Américains et d'étendre la couverture santé. Donc je pense que Donald Trump a pratiquement tout à perdre dans cette affaire.
Et plus largement, il y a la question de son rapport à la vérité. Là, on ne peut plus se cacher. Quand vous êtes face à la Corée du Nord, qui font des essais encore, plus personne ne les regarde, on a oublié. Quand vous avez des chiffres du chômage, personne ne va regarder dans le détail ce que ça peut vouloir dire en termes de taux d'emploi. C'est compliqué tout ça. Mais là, vous avez des morts. Vous avez des Américains, vous avez des gens très connus, vous avez des matchs du basket qui n'existent plus. Et ça, pour les Américains, c'est du réel. Vous avez leur argent à la bourse qui s'envole parce que la retraite... On parle beaucoup de retraite en France. Bah aux États-Unis, leur retraite, elle est essentiellement indexée sur... Elle est même en bourse. Hein, c'est le fameux 401K. Elle est en bourse. Du coup, ça a des impacts très clairs et très précis pour les gens. Et quand je dis que le mur du réel lui arrive en plein visage, c'est qu'il y a un moment donné où le coronavirus apparaît comme un révélateur. Je ne dis pas que tous les mensonges de Trump vont apparaître là.
Le système de santé, ce n'est pas que sa faute.
Non, pas du tout, je ne dis pas ça. En revanche, le fait d'avoir en 2018 viré l'ensemble des gens qui étaient en capacité de gérer une épidémie, ça c'est un peu de sa faute. Ouais. Mais même là, c'est encore un peu complexe. En revanche, de dire, quand on voit quand même les clips qui commencent à venir, on parle de la campagne électorale, quand on voit Trump qui dit bientôt il y aura zéro cas aux États-Unis. Et si en face, on met des milliers de décès, parce que hier, le médecin du Capitole a dit, c'est hyper inquiétant, il a dit, dans la situation actuelle, on pourrait aller entre 70 et 150 millions de cas aux États-Unis. Si on ajoute un taux de létalité tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est des centaines de milliers, voire des millions de morts. Personne ne peut dire que ça sera ça aujourd'hui, mais le chef aussi à Harvard de la question médicale dit la même chose, entre 20 et 60% des Américains. Vous vous rendez compte? Le décalage entre un discours, le discours performatif, je veux donc ça existe, et la réalité en face, elle peut être terrible, ce clivage peut être terrible. Et alors attention, qu'on soit bien clair, je ne me réjouis absolument pas de cette situation. Personne, je crois, ne peut se réjouir de cette situation.
Mais juste, je posais la question, est-ce que ça rassure les Américains? Comment ça a été reçu aux États-Unis, cette annonce de Donald Trump? Est-ce que les Trumpistes de la première heure y ont vu une mesure efficace pour protéger le pays? Il est toujours là, son socle?
C'est un peu tôt, mais il est très probable qu'en effet, on se dise, voilà quelqu'un qui prend les bonnes décisions, voilà quelqu'un qui définit l'adversaire, voilà quelqu'un qui nous tient un discours qui nous plaît, qui est celui de nous contre le monde, qui est le discours de Donald Trump depuis janvier 2017.
Stéphanie Villain.
Mais en fait, c'est quand même cette épidémie, ça reste un choc temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il va disparaître. Donc en fait, tout dépend pour lui. Il a quand même encore une carte à jouer. C'est-à-dire que si la durée est restreinte, si on arrive à endiguer l'épidémie, eh bien, déjà les bourses vont aussi rebondir. On ne va pas forcément tous dans le mur, en fait. On va économiquement.
On vous remercie de prononcer cette phrase comme ça.
Non, mais économiquement, c'est peut-être pas totalement fini. Il y a quand même, faut voir que ce type de choc externe, on voit bien que 90% des dommages sont liés aux craintes que cette épidémie suscite. Et dès que ces craintes en fait, sont atténuées, on voit un peu plus clair, on voit qu'on va s'en sortir, eh bien, il y a un rebond. Donc, il a encore cette possibilité-là, c'est si on arrive à trouver un vaccin, si on arrive à trouver à endiguer rapidement cette épidémie. Puis il faut voir qu'en Chine, ça y est, on a quand même des signaux a priori plus positif.
Moi, je crois que ce scénario optimiste, il a de moins en moins cours aujourd'hui quand même. L'OMS a décrété que c'était une pandémie, donc ça prend des proportions assez alarmantes. Et le pic de l'épidémie, je crois qu'il n'est pas attendu avant le mois de mai en Europe et donc aux États-Unis encore plus tard. Et il y a encore deux semaines, quand on disait c'est incomparable avec la crise de 2008, tout le monde était d'accord sur ce constat-là. Aujourd'hui, pas du tout. On a vraiment l'impression que ça peut être pire que 2008.
C'est ce que
les
dit
conséquences pour l'Amérique sont terribles.
C'est ce que dit Christine Lagarde. On va y venir dans un instant, parce qu'il y a eu des annonces aujourd'hui de la BCE. Vous vouliez dire un mot, François Clémenceau?
Non, juste un mot. Je discutais avec un diplomate mexicain aujourd'hui et qui rappelait que, je ne me rappelais plus ça, qu'en 2009, la grippe H1N1 était née au Mexique. Et il me rappelait les mesures qui avaient été prises par le Mexique immédiatement, c'est-à-dire au premier jour où ils avaient fermé toutes les écoles, ils avaient suspendu la circulation, ils avaient mis en quarantaine un nombre incroyable de structures au Mexique. Les séances du gouvernement se tenaient à l'air libre et non plus à l'intérieur pour faire en sorte qu'on ne soit pas exposé au virus. Et il me disait, vous rendez compte, c'était juste le Mexique. Et c'était, et finalement, ça s'est révélé être une épidémie, certes, mais beaucoup moins grave qu'une autre. Et donc, c'est ce décalage, si vous voulez, entre le voisin des États-Unis, qui n'est pas une grande puissance, qui et cette sorte de déni de la réalité et du travail qu'il y a à faire, à la fois en termes de discours, de cohésion, de discipline.
Alors, cohésion.
Qui est qui n'est pas possible, apparemment qui n'est pas possible par ce président.
Est-ce que, à votre avis, il y a une chance que l'OMS, vous parliez tout à l'heure de l'OMS, a appelé à une action concertée par désormais de pandémie mondiale? Alors c'est vrai que on a beaucoup ici suivi jour après jour les mots choisis par l'OMS qui, on disait, refuse de parler de pandémie et qui aujourd'hui dit il y a des gouvernements qui sont trop dans l'inaction, il faut aller plus vite et de manière concertée. Quand on voit ce que fait Donald Trump, ce n'est pas du tout le chemin que prennent. Et on va voir qu'en Europe, c'est un peu aussi chacun pour soi. On a plutôt aujourd'hui un monde sous le choc, mais un monde où chacun joue sa propre partition.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le patron de l'OMS, il est dans une forme de contrainte, si vous voulez, parce qu'il n'est que l'homme des Nations Unies. Il ne faut jamais oublier que l'OMS, c'est les Nations Unies en version médicale. Autrement dit, les discours que vous les prononcez au nom de tous. Ce n'est pas en votre nom propre. Et donc, vous êtes obligé à une forme de compromis, de prudence, parce que vous êtes le représentant de 200 nations. Et donc, Quand vous avez été nommé un peu aussi grâce à l'aide de la Chine à ce poste-là, quand vous avez en face de vous les États-Unis qui sont dans le déni, quand vous avez des États qui effectivement ont des réflexes nationalistes parce qu'ils estiment que la santé publique, c'est une souveraineté, alors qu'on le voit bien, c'est une forme de souveraineté, j'allais dire, une supra, souveraineté. Donc, c'est compliqué pour lui. Et en même temps, vous voyez bien que... En fait, ça se passe exactement comme au Conseil de sécurité devant une crise sécuritaire majeure où vous avez l'un ou l'autre des membres du Conseil de sécurité qui a une forme de droit de veto. Tout le monde est en train d'utiliser son petit veto par rapport à une coordination mondiale qu'on aimerait bien voir se mettre en place. Mais ce n'est pas possible.
Ça doit être on a beaucoup parlé de la fin du multilatéralisme, etc. Oui. Est-ce que ça va obliger cette crise-là à un moment donné à jouer ensemble ou est-ce qu'on peut aller au bout de cette crise-là en jouant chacun pour soi ?
On a vu à quel point, si vous voulez, sur une dimension aussi mondiale que la thématique climatique, on en est arrivé aujourd'hui à se dire que oui, face à une menace globale, il faut une réponse globale et donc c'est le multilatéralisme qui est l'outil évidemment prioritaire. Mais là, oui, il faut souhaiter que cette crise puisse aboutir à ce genre de décision, de se dire à l'avenir, pour la prochaine fois, oui, il vaut mieux être unis dès le départ que tous divisés.
Et là, on a bien compris qu'on n'y est pas pour l'instant. Vous voulez dire
il y a un petit réveil qui commence à poindre en Europe. Depuis mardi, les 27 ont décrété leur volonté de se parler tous les jours. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de nouveau. Pour revenir juste deux secondes sur l'OMS, je pense quand même qu'on peut lui faire beaucoup de reproches. En fait, elle ne peut pas nommer les pays qui sont, selon elle, défaillants. Donc on atteint toutes les limites de l'exercice. Elle ne fait pas de recommandations extrêmement claires. Et en même temps, elle dit « Nous félicitons l'Italie et la Chine pour tout ce qui a été accompli chez eux. C'est un travail formidable. » Donc on a l'impression qu'il y a quand même des recommandations sous-entendues. C'est très peu clair. On ne sait vraiment pas ce que chaque pays doit faire. Et c'est en ça aussi qu'il y a... L'effort de coordination est très difficile.
Alors l'OMS appelle, on l'a dit, à une réponse concertée, pas sûr qu'en la matière l'Europe soit un modèle. Pour l'instant, depuis le début de la crise, chaque pays a sa propre stratégie. Fermeture des écoles, des commerces, des frontières pour les uns, gestion au cas par cas et mesures proportionnées pour les autres, dont la France. Au plan économique, la BCE était attendue aujourd'hui et si l'on en croit la chute des indices boursiers, notamment à la Bourse de Paris, eh bien, elle a plutôt raté sa cible. Walid Berissoul et Michel Bouilly.
C'était l'annonce la plus attendue par les marchés financiers. Gagnée par la panique du Covid-19. Une panique que seule la parole de la patronne de la Banque Centrale Européenne peut apaiser ou accentuer.
Le Conseil des gouverneurs a décidé de maintenir son taux directeur inchangé.
Sur cette annonce, les principales bourses européennes replongent immédiatement. Moins 10,15% à Paris, moins 10,4% à Francfort. Pour Christine Lagarde, c'est aux États européens de rassurer les marchés et les esprits.
Les gouvernements et toutes les institutions politiques sont invités à prendre des mesures adéquates et ciblées afin de relever le défi de santé publique que constitue la propagation du coronavirus et à atténuer son impact économique.
Les dirigeants des 27 qui, hier, tentaient d'apporter une réponse coordonnée, pour l'instant quelque peu virtuelle. Car chacun a pour priorité de contenir l'épidémie sur son propre territoire. Hier, la chancelière allemande s'est exprimée pour la première fois sur le coronavirus, avec des prévisions pour le moins inquiétantes.
Lorsque le virus est présent, la population n'est pas immunisée. Et il n'existe pas de traitement. Par conséquent, 60 à 70% de la population allemande sera infectée si la situation perdure. Je voudrais aussi adresser mes pensées à nos amis italiens qui sont actuellement les plus touchés en Europe.
Une solidarité uniquement dans les mots, car l'Allemagne a interdit l'exportation de son matériel médical. Un autre pays a donc proposé son aide à l'Italie, la Chine. Des respirateurs artificiels, 100 000 masques et 20 000 tenues de protection envoyées par Pékin à la troisième puissance économique européenne.
Nous nous souviendrons de tous les pays qui nous ont été proches durant cette période. Nous nous souviendrons de tous ces États à l'étranger qui ont été avec nous dans cette période difficile.
Tandis que le deuxième pays le plus touché au monde par l'épidémie confine chaque jour un peu plus sa population.
Nous fermons les magasins, les bars,
les pubs et les restaurants, et nous laissons la possibilité de faire des livraisons à domicile.
Des magasins fermés et des rayons vides, en Italie comme en Espagne, où le nombre de morts a doublé ces dernières 24 heures. Un état d'alerte qui gagne aussi la Grèce. Elle craint par-dessus tout que son système de santé ne se relève pas du coronavirus.
Nous devons utiliser le temps dont nous disposons pour ralentir la propagation de cette épidémie et renforcer nos capacités médicales.
Alors Athènes vient d'annoncer une mesure drastique, la fermeture de toutes ses écoles et universités, tout comme l'a fait l'Italie et aujourd'hui l'Irlande, la Pologne, le Danemark et la Roumanie. Alors que d'autres vont plus loin en fermant leurs frontières, comme la République tchèque, la Slovénie à sa frontière italienne ou l'Autriche qui renforce ses contrôles. Dans la cacophonie, certains, comme l'ancien chef du gouvernement italien, se permettent même d'adresser des conseils à leurs voisins européens.
Beaucoup de gens, par exemple, décident de continuer d'aller au théâtre ou au musée. Parce que leur réaction, c'est « on n'a pas peur, on va au théâtre ». C'est une bonne réaction face à une attaque terroriste. On montre notre résilience, mais quand il y a un virus, nous devons éviter de fréquenter les lieux publics. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. L'Italie a perdu du temps et cela a été une erreur.
Comme s'il n'y avait pas d'alternative à un scénario à l'italienne.
On se faisait la remarque en regardant ce reportage, même Matteo Salvini.
Matteo Renzi.
Lapsus, oui.
Mais c'est intéressant parce que ça, ce qu'il dit, Matteo Renzi, je trouve, est fondamental parce que ça montre à quel point le coronavirus lance un défi aux démocraties. Ouais. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo qui s'appelle Plague, la peste, qui est un jeu très charmant, qui existe depuis 10 ans, dans lequel votre objectif, c'est de tuer l'ensemble de l'humanité par une épidémie. D'accord ? Et dans le jeu, il y a des États que vous pouvez beaucoup plus facilement noyer dans l'épidémie que d'autres. C'est les démocraties. C'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne peut pas prendre les mesures que prennent les dictatures. On ne peut pas décider de tuer tous les vieux, par exemple, ce que pourrait décider une dictature terrible. On ne peut pas confiner une ville comme Wuhan. Enfin, en tout cas, ça serait compliqué en France de le faire aussi vite comme les Chinois l'ont fait très, très brutalement. Et puis, c'est un peu ce que disait Renzi, il y a aussi notre liberté de circulation. Il y a nos principes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce que disait Renzi et dans votre question. Et ce qui nous interpelle un peu, c'est ce que ce coronavirus nous lance comme défi à nous, démocratie. Et la question, par exemple, des élections municipales en France, on est en plein dedans, à savoir, doit-on ou pas maintenir les élections dans ce contexte-là ? L'état de droit, la démocratie, la liberté de circulation, toutes ces questions-là sont rejouées, rebattues en ce moment.
Et pour parler de Salvini, il n'y a pas de débat en Italie sur les mesures qui sont prises. Il n'y a aucun débat comme en France où on voit bien
au début, il y en a eu et puis maintenant.
Il y en a eu et maintenant c'est fini. Pourquoi la BCE a-t-elle réagi aussi mollement alors que l'Union européenne est dans la panade ?
Christine Lagarde, elle a tenu un discours de vérité aujourd'hui. Elle a dit les banques centrales ne peuvent pas être sur la ligne de front. On a fait le maximum depuis 5 ans. Ils sont pratiquement les seuls à soutenir les économies aux États-Unis, au Japon et en Europe. Et elle dit aujourd'hui, c'est aux États de prendre le relais. C'est un discours courageux, mais qui a été assez catastrophique, hein, parce qu'on a vu que toutes les bourses s'effondraient. Et elle a eu des mots très, très durs à l'égard des États européens. Elle a dit qu'il y avait une certaine complaisance, je crois. Enfin, des mots vraiment qu'on n'entend pas du tout d'habitude de la part d'un responsable de banque centrale. Donc voilà, elle a proposé des mesures décevantes aux yeux des marchés, donc pas de baisse de taux.
Des prêts pour les entreprises, maintien des taux directeurs inchangés, elle assouplit les exigences de fonds propres pour les banques.
Oui, très bien. Bon. Ça va aider les PME qui vont être en extrême difficulté dans les semaines et les mois à venir. Mais comparé à ce que la Fed a fait la semaine dernière par surprise et par avance, parce que ce n'était même pas un comité monétaire, et ce que la Banque d'Angleterre a fait hier, on est très en deçà.
Et comment vous l'expliquez ? Juste comment vous l'expliquez, c'est important, parce qu'on l'attendait. Tout le monde, elle sait bien qu'il y a une pression sur ses épaules, Christine Lagarde. Elle était aux manettes pendant la crise de 2008. Elle sait de quoi elle parle.
Elle savait les attentes qui pesaient sur elle aujourd'hui.
Pourquoi,
moi, je pense qu'elle a voulu tenir ce discours de vérité. Nous n'avons plus les marges de manœuvre à la BCE pour soutenir l'économie européenne. Ce qui est très grave, mais ce qui, à mon avis, est vrai.
Oui, enfin, ça ajoute encore à
la panique, tout à fait.
Et à la panique. Juste, vous parliez de la Fed, on l'apprend à l'instant. Vous disiez, elle a mis les moyens. Eh bien, elle remet les moyens, puisqu'elle vient d'annoncer 150 milliards réinjectés. Réinjectés sur les marchés monétaires.
La Fed a un peu plus de marge de manœuvre que la BCE aujourd'hui. Hein, les taux sont plus élevés. La BCE aujourd'hui est à zéro pour certains taux. Donc, voilà, les États-Unis ont une certaine latitude que nous n'avons plus.
En fait, c'est surtout parce que aux États-Unis, c'est sur le marché monétaire, c'est-à-dire que les banques, depuis un certain temps, ont arrêté de se prêter entre elles. Donc ça, c'est quand même une mesure d'urgence. Et nous, on n'est pas dans une situation en Europe où le système financier a du mal à se prêter entre soi. Donc ça, c'est déjà un problème en moins. Après, vous avez dit qu'il n'y avait aucune raison pour la BCE d'abaisser plus ses taux directeurs. On est déjà, entre banques, elles se prêtent à taux négatifs. Par contre, les marchés, elles s'attendaient vraisemblablement à des mesures magiques. C'est-à-dire que le « whatever it takes » de Mario Draghi, tout le monde s'attendait à ça, en disant qu'on avait ciblé... On sait où sont les maillons faibles dans l'économie. C'est les PME, c'est certains secteurs du tourisme, du transport. Donc on s'attendait à des mesures... Enfin, les marchés s'attendaient à des mesures ciblées en disant « l'économie va être en pause pendant un certain temps, on le sait très bien, on va aider ces entreprises-là à passer cette période difficile. » Or, là, encore une fois, c'est quand même l'erreur dans la zone euro, c'est qu'on attend plutôt les mesures qui sont enclenchées aux États-Unis, et il y en aura aux États-Unis. La Fed va de toute manière avoir une pression énorme de la part de Donald Trump, et donc il y a déjà des tensions sur le marché du crédit aux États-Unis. Donc là encore, le coronavirus a mis en exergue les déséquilibres du marché américain, hein, c'est-à-dire que les taux vont se mettre à augmenter. L'action de la BCE aujourd'hui a été assez dévastatrice sur la dette italienne. Hein. Il faut savoir que l'Italie a dit on va remettre au pot, on va engager 30 milliards d'euros, mais elle n'a rien dans ses caisses. Donc, elle est obligée d'emprunter sur le marché obligataire, sur les marchés financiers. Et la BCE lui a donné, au contraire, lui a tiré une balle dans le pied en disant « tu vas emprunter, mais tu vas payer plus cher que les autres et plus cher qu'auparavant ». Donc ça, elle va être obligée de revoir sa copie, hein, parce que les marchés sont en train de sanctionner la mauvaise communication qu'a fait aujourd'hui Christine Lagarde.
Et Bruno Le Maire qui a expliqué que ces mesures devront être complétées par des mesures budgétaires et de trésorerie massives coordonnées à l'échelle européenne.
C'est peut-être le calcul de Christine Lagarde, hein, parce qu'il y a cette rencontre européenne lundi prochain, où les 27 pays doivent décider de nouvelles mesures budgétaires. Donc si ça se trouve, elle s'est dit « je ne fais rien et j'ajoute encore de la pression à ces pays européens pour qu'ils agissent ». Aujourd'hui, ils n'ont ajouté que 27 milliards d'euros pour régler le coronavirus. C'est absolument ridicule comme montant. Je crois que c'est un quart de point de PIB du budget européen. Elle a dénoncé aujourd'hui, et c'est peut-être son calcul aujourd'hui, hein, c'est de dire « allez-y, c'est à vous ».
Vous voyez ce que ça réveille un peu comme débat sur l'Europe, c'est-à-dire que on s'en est tellement plaint parce qu'elle prenait trop de place, hein, dans nos vies et qu'il y avait cette sorte de pouvoir intrusif, l'Europe se mêle de tout, elle veut tout régler, etc. Et dès qu'il y a une grosse crise qui nous dépasse, tous entre Européens et surtout à l'échelle mondiale, on se retourne vers l'Europe et on se dit « mais comment ? L'Europe n'est pas là ?» L'Europe n'est pas là parce que l'Europe n'a pas cette compétence de pouvoir décider toute seule d'agir, par exemple, sur les mesures à prendre prioritaires, urgentes et budgétaires pour lutter contre le coronavirus. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de ses compétences. Il n'y a aucun traité qui dit que l'Europe
sauf
doit
la BCE.
S'en occuper.
Sauf la BCE.
Oui,
la BCE, oui. C'est pour ça qu'elle est atteinte.
Mais en même temps, cette BCE, vous l'avez très bien exprimé, elle a ses propres limites. Donc elle ne peut
non,
pas...
Non, elle n'a pas de limite. Au contraire, elle peut très bien dire un QE, donc donner des liquidités au marché. Oui. Elle en a donné pendant des années. Oui. Là, elle a juste dit du bout des lèvres, peut-être que j'en rajouterai un peu plus. Mais c'est rien. Ouais. Le marché s'attendait à un signal beaucoup plus brutal en disant les liquidités, ça va. Et ça aurait vraisemblablement calmé les marchés.
Voilà. Sur le plan économique, oui. Ouais. Mais après... Quand vous voyez qu'on n'a toujours pas de budget, là, en ce moment, entre Européens, on est toujours en train de négocier, et vous avez ceux qui veulent négocier ce budget à la baisse parce que les Anglais sont partis et qu'on n'a pas besoin de rajouter au pot, et ceux qui disent non, s'il y a bien un moment maintenant où il faut franchir un seuil, c'est maintenant, et pas seulement pour régler des crises à venir, mais pour juste être plus fort. Et sur la compétence, j'allais dire, en matière de santé publique, eh bien oui, peut-être qu'il va falloir se rendre compte maintenant, au cœur de cette crise et après la crise, que peut-être que c'est au niveau européen qu'il y a un certain nombre de mesures, j'allais dire, d'harmonisation dans nos systèmes de santé. Alors qu'effectivement, on ne part pas tous à égalité sur la ligne de départ, parce que vous avez des pays qui ont des infrastructures hospitalières, pardonnez-moi, un peu catastrophiques. Vous en avez d'autres qui sont plutôt pas mal et d'autres qui sont très bons élèves. Donc, comment harmoniser tout ça ? Eh bien, avec des aides pour pouvoir... On le fait sur plein d'autres domaines. Pourquoi on ne le ferait pas dans le domaine de la santé publique ? Donc, toutes ces questions, elles vont finir par se poser et c'est assez sain qu'elles finissent par se poser.
Mais voyez, même les fondamentaux de la solidarité entre des pays européens, où on apprend, parce qu'on voyait dans le reportage, que les respirateurs artificiels qu'il manque aujourd'hui à l'Italie viennent de Chine et non pas d'autres pays européens. Même la solidarité, j'allais dire, de base, dans ce moment-là de grande fébrilité,
vous ne l'avez pas vu au moment de la crise des migrants, il n'y a pas de raison objective pour que vous la voyiez dans une autre crise, c'est malheureux.
C'est la même chose, c'est ce que j'allais dire, c'est que la construction européenne s'est faite autour de l'élargissement et de l'effacement des frontières plutôt que de l'approfondissement. On a fait l'un plutôt que l'autre, et même l'un parce qu'on n'arrivait pas à faire l'autre. Pour avancer dans la construction européenne, on a cessé depuis 1957, depuis 1973, d'élargir l'Europe parce qu'on n'arrivait pas à l'approfondir. Et plus on l'a élargi, plus c'était difficile de l'approfondir. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, alors là, c'est une crise mondiale, mais que les frontières sont ouvertes, donc on a les mêmes problèmes, mais on n'arrive pas à trouver des solutions communes. Donc il n'y a pas 50 milliards de solutions. Soit on va vers plus d'approfondissement, soit on arrête et on remet des frontières et on se protège. Après, chacun jugera, mais la situation ambiguë dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on la retrouve à chaque crise économique, migratoire, sanitaire aujourd'hui, c'est toujours la même histoire.
Et vous parlez des frontières. La Slovaquie a annoncé aujourd'hui qu'elle interdisait l'entrée de son pays à tous les étrangers, y compris les Européens et donc les Français.
Ce qui est amusant, c'est que c'est l'une des seules mesures que l'OMS conteste, l'Organisation mondiale de la santé. C'est écrit noir sur blanc, sa première recommandation, c'est surtout ne pas fermer les frontières. Ouais. Donc c'est à la fois une gifle pour Donald Trump et pour ces pays européens qui en font le choix. Pourquoi ? Parce que ça peut pénaliser le travail des secours, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus... Et par ailleurs, c'est totalement inefficace, ça ne réduit pas la propagation de la pandémie.
Et ça fait 150 ans qu'on le sait, puisque c'est au milieu du 19e siècle qu'on a découvert, que la médecine a découvert ce qu'on appelait les porteurs sains. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, s'il y a des porteurs sains dans les pays, si on ferme et qu'on ne fait rien à l'intérieur, le germe il est à l'intérieur et la maladie elle est à l'intérieur. Donc, depuis ce moment-là, on considère que les frontières, il faut qu'elles soient autour de zones ou autour des gens. La prophylaxie, laver les mains, etc. C'est plutôt ça la logique. Donc de retrouver des frontières, des grandes frontières entre des pays, je vous dis, c'est un modèle 19e siècle.
Là, on voit bien que chacun a choisi sa stratégie. Il y a des rendez-vous, à part ce rendez-vous que vous évoquiez lundi, des ministres des Finances de la zone euro.
Qui est un rendez-vous budgétaire.
Qui est un rendez-vous budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous au niveau européen?
Vous avez un Conseil européen 22 et 23 mars, je crois. Et évidemment, c'était pas du tout prévu pour parler de ça, mais c'est évidemment, ce sera le premier des sujets. Et où il faudra adopter... Encore une fois, non pas une mesure unique qui s'impose à tout le monde, mais une coordination, au moins ça. C'est-à-dire que nous, entre Européens, on se parle. Ça, vous avez vu la visioconférence, on se parle. Le problème, c'est est-ce qu'on peut arriver à se mettre un tout petit peu d'accord sur des pratiques prioritaires,
urgentes,
etc.
Vous dites on se parle. Personne ne dit la même chose.
Non,
on a Angela Merkel, par exemple, je voudrais qu'on revienne sur cette phrase d'Angela Merkel, qui dit à son pays... Il peut y avoir jusqu'à entre 60 et 70% des Allemands qui sont contaminés. Alors que nous, jusqu'à présent, le discours était plutôt de dire il faut continuer à vivre normalement, on gère au cas par cas, on va fermer une école par-ci, une université par-là. On voit bien qu'à quelques dizaines de kilomètres, au-delà d'une frontière et dans un même ensemble qu'est l'Europe, on ne dit pas du tout la même chose.
En fait, ces calculs sont faits à partir de la propagation au niveau géographique. Quand vous avez 80% d'une population qui se trouve concernée, ce sera probablement le cas pour la France. Donc 80%, parce que la zone géographique où se retrouvent les cas, c'est 80% du territoire. À partir de ce moment-là, ça veut dire que ça peut se répandre et concerner 80% des gens. Ce n'est pas la même chose. Mais ce discours de vérité, je veux dire, on aurait pu le tenir, j'allais dire, presque depuis le début. Parce qu'on le sait, enfin, je veux dire, on le voit, la vitesse à laquelle ça va. Vous avez un cluster, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Au bout d'un moment, fatalement, il faut se dire, OK, géographiquement, il faudra prendre une décision à l'échelle nationale. Bon, mais le plus important dans ce qu'elle a dit, à mon sens, c'est pour la première fois, depuis très longtemps, qu'elle dit le déficit budgétaire, qui a longtemps été un tabou en Allemagne, elle l'a levé. Et alors là, pour le coup, contre son propre parti, contre son propre gouvernement, contre son propre ministre des Finances, en disant l'épidémie, c'est plus grave que le déficit budgétaire. Et quand on est en excédent comme l'Allemagne, je parle sous le contrôle de mes collègues économistes, c'est important.
Ça, c'est un bon message envoyé aux Européens.
Ah oui, mais je pense que c'est aussi à dessein. C'est-à-dire, pour convaincre son opinion publique, elle est obligée de dramatiser, hein, contrairement à nous, en fait. C'est faites attention, ça va toucher la grande majorité de la population germanique, donc il faut absolument qu'on utilise nos excédents nous, on a de l'argent et on ne va pas pouvoir soutenir notre population dans cette phase difficile. Hein, l'Allemagne est lourdement touchée. Hein, son industrie est en récession et il faut agir là.
Alors, on parlait de choc européen, de choc mondial aussi, ces deux informations. Manille, la capitale des Philippines, a été mise en quarantaine et l'Inde a suspendu tous les visas de tourisme. En France, Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h et tous les scénarios sont désormais évoqués. Des rumeurs sur le report des municipales, un passage en stade 3 ou une simple adresse à la nation et un appel au civisme. Le secret, en tout cas, bien gardé alors que des voix s'élèvent désormais pour réclamer plus de transparence et un renforcement des moyens. Paul-Rémy Barjavel et Ilana Arzincote.
Édouard Philippe, sur le pont ce matin pour une réunion avec les présidents des assemblées, des groupes parlementaires et des chefs de parti. Deux heures d'échange et à la sortie, une opposition très critique sur la gestion de la crise sanitaire.
On a une obligation d'avoir un bouclier anti-crise beaucoup, beaucoup plus défensif que les premières annonces qui ont été faites, qui sont sans doute bonnes, mais qui sont totalement insuffisantes.
La disponibilité des masques, quand, pour qui, combien, rien, on ne sait rien. On ne peut rien dire aux médecins qui nous interrogent sur ce sujet, rien dire aux gens qui sont détectés et qui ont le coronavirus et qui souhaitent protéger leurs proches.
Le gouvernement sous pression, car l'épidémie en France progresse. Au dernier bilan, 2284 cas confirmés de Covid-19, 48 morts recensés. Un nouveau foyer a été détecté hier dans l'agglomération de Montpellier. Les crèches et les établissements scolaires de 16 communes de l'est de la ville sont fermés pour 14 jours. Il faut s'organiser.
On va trouver des solutions, mais c'est sûr qu'on a besoin de solliciter les grands-mères, les amis, leurs amis, les parents. Il y en a qui sont à domicile, donc qui nous ont proposé de les garder.
Même chose en Corse, où les écoles n'accueillent plus d'élèves jusqu'au 29 mars. Toutes les régions de France sont désormais concernées. Les plus touchées sont le Grand Est et l'Île-de-France.
Le virus circule de plus en plus activement, c'est certain, et dans des territoires de plus en plus nombreux. C'est pourquoi il faut vraiment passer le message du renforcement des bons comportements et des mesures barrières dès maintenant. Protéger les plus fragiles, le ministre l'a dit, pas de sortie sauf raison majeure, réduire ses contacts, aller se promener dans un parc, oui, mais se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de gens, c'est pas le bon moment pour des personnes particulièrement fragiles.
Depuis hier, dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée, toutes les visites de personnes extérieures aux établissements sont suspendues.
C'est plutôt une bonne décision parce que ça permet de protéger les personnes qui sont les plus fragilisées. Voilà, je leur fais confiance.
Eh bien, écoutez, on peut communiquer par téléphone, c'est le principal.
La crise sanitaire bouleverse l'économie du pays et l'agenda politique. Ce matin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est dite prête à aménager les nouvelles règles de l'assurance chômage qui doivent s'appliquer le 1er avril. Une demande martelé depuis plusieurs jours par les syndicats.
On sait que quand on travaille dans l'événementiel, quand on travaille dans le tourisme, quand on travaille dans la restauration, en particulier, ce sont des travailleurs qui ont des contrats successifs. Ceux-là, ils vont être mis dehors de l'entreprise assez rapidement, puisqu'on voit qu'il y a un abaissement. C'est déjà la variable d'ajustement, mais ça sera encore plus la variable d'ajustement en période de crise. Et il faut donc qu'il ne soit pas, que ces mesures ne s'appliquent pas au 1er avril. C'est absolument indispensable, sinon ça va être extrêmement brutal pour tout un tas de travailleurs.
Crise sanitaire, crise économique et sociale. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole. Le président de la République va s'adresser directement aux Français ce soir dans une allocution. Une première depuis le début de l'épidémie du coronavirus.
Et cette question qu'elle nous est posée ce soir, Macron pourrait-il ce soir annoncer le report des élections ?
Ça se murmure de plus en plus fort. Hein. C'était quelque chose qui était inenvisagé à ce stade. C'était plusieurs fois dit
à ce stade.
Même si je me souviens que le ministre de l'Intérieur, lui, avait dit, sans dire à ce stade, que les élections auraient lieu, avec l'argument qui était de dire... Ben, nous allons maintenir le fonctionnement de la démocratie, c'est important de conserver nos valeurs, etc. Voilà. Donc, mais effectivement, de plus en plus, c'est dans les rédactions, sur Twitter, là où des journalistes bien informés se trouvent, on évoque de plus en plus, moi je n'ai pas d'informations supplémentaires, mais la question du report.
C'est légalement
surtout,
possible
surtout oui, pour, c'est légalement surtout possible. Pour le deuxième tour. Surtout pour le deuxième tour, bah, le premier évidemment. Tour. Là, dans 2 jours, c'est jouable. C'est mais possible. La question est celle du deuxième tour. Dans l'histoire, c'est arrivé une fois, à La Réunion. En 1973, aux législatives, il y avait eu une catastrophe naturelle et on avait repoussé le deuxième tour, c'est juste avec une décision du Conseil des ministres, ce qui est à la limite de la légalité, mais qui est possible.
La question, c'est celle du deuxième tour, en fait. On a ce mode de scrutin qui prévoit 2 tours, il y a un délai d'une semaine, et vous ne pouvez pas raisonnablement parier qu'entre ce dimanche-ci et le dimanche suivant, la crise va diminuer ou rester la même. Elle va forcément continuer à s'amplifier. C'est un modèle comme ça qui est en courbe ascendante. Donc, est-ce que vous prenez ce risque-là de voter dimanche et puis de devoir, sous la contrainte des événements, annuler le deuxième tour? C'est un peu compliqué
à gérer. Vous dites légalement c'est possible. On a expliqué les semaines passées qu'il fallait faire voter une loi pour modifier
Il y a trois options possibles. Voilà. Vous pouvez faire voter une loi, ça prend environ 48 heures minimum, donc vraiment il faut le décider ce soir.
On rappelle qu'il y a une pause, il n'y a pas de Parlement en ce moment parce qu'il y a des élections et qu'il y avait une campagne.
Dans ces circonstances, on comprendra qu'on fasse peut-être entorse aux pratiques, mais vous pouvez aussi adopter un décret et une loi ensuite, donc ça c'est peut-être plus rapide. Et vous pouvez aussi déclarer l'état d'urgence, auquel cas vous pouvez aller encore plus rapide.
Est-ce qu'on a dans l'histoire, Thomas Negarov, des circonstances aussi dramatiques, aussi exceptionnelles, avec un scrutin qui est maintenu, juste parce que là où on se parle, il est maintenu? Est-ce que en temps de guerre, on a voté?
Non, je n'ai pas d'exemple. Il y a les municipales de 1945, mais c'est à la toute fin de la guerre. En 1957, vous avez une terrible épidémie de grippe asiatique qui va quand même tuer 100 000 Français et qui touchait 9 millions de personnes. On a complètement oublié. Mais à l'époque, on n'avait pas fermé les écoles, pour dire, parce qu'on avait considéré qu'on allait rendre... Enfin bref, on n'avait pas fermé les écoles.
D'accord.
Et il n'y avait pas d'élection à ce moment-là. J'ai pas dans ma mémoire, peut-être que quelqu'un va me contredire, mais j'ai pas dans ma mémoire de contexte de ce type-là à ce moment-là. La canicule de 2003, qui n'est pas une épidémie, mais qui était un problème sanitaire très très grave, n'avait pas été dans un contexte électoral, donc j'ai pas le souvenir.
On est assez dans des circonstances inédites,
de toute façon,
quoi qu'il arrive, et quelles que soient les annonces ce soir d'Emmanuel Macron, et vous êtes d'accord pour dire qu'on mobilise pas les Français à 20h pour juste un appel au civisme?
Oui.
Non mais oui,
évidemment, si le président s'apprête
à parler... Non mais après l'émission
qu'on vient de faire
ensemble, ça appelle plutôt des mesures assez fortes. Quoi.
Oui, des annonces fortes. En précisant que vous posez la question de la démocratie et du rythme dans des circonstances exceptionnelles, imaginons que nous ne soyons pas face à une épidémie ou à une pandémie, mais juste à un attentat terroriste de type 2015, Bataclan. La décision d'arrêter l'élection, si elle avait lieu le week-end d'après, aurait probablement été prise. En revanche, regardez ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait ce grand rassemblement international qui était prévu, qui était la COP21, avec des centaines de chefs d'État, de délégations étrangères. Ça a été maintenu. Donc, c'est très compliqué d'ajuster le tir. Il y a un moment où on se dit on ne peut pas être piégé par le hasard. Puis il y a des moments où vous dites il y a des... On ne peut pas. Voilà, c'est le principe de précaution appliqué à l'extrême, mais effectivement, il faut pouvoir l'appliquer de temps en temps.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Si on m'avait dit qu'un petit virus pouvait faire s'écrouler toute l'organisation mondiale.
Un petit pangolin, cet animal en voie de disparition.
Mais elle est importante, cette question, parce que c'est juste, on mesure la fragilité, on mesure la rapidité avec laquelle un système qui paraissait immuable.
C'est ce qu'un analyste américano-libanais, Nicolas Taleb, a parlé de signe, a inventé la notion de signe noir, la puissance de l'imprévisible. Et tous les analystes, autant que nous sommes ici, peinent à envisager toujours ce qui est inenvisageable. Pourquoi il dit signe noir? Parce qu'il dit, tant qu'il n'y avait que des signes blancs, on pensait qu'on n'avait pas encore découvert un signe noir, on pensait que tous les signes étaient blancs. Et puis quand on voit un signe noir arriver, tout notre système de perception s'effondre. Et on est là-dedans, 2008, 11 septembre, etc. Le pangolin, ce n'est pas quelque chose qui était envisagé. C'est un signe noir dans la mesure où il est imprévisible et ses conséquences sont majeures.
Donald Trump n'a-t-il pas raison de protéger le peuple américain?
Il a raison de protéger le peuple américain. La question, c'est comment et quand? C'est-à-dire le faire de façon ordonnée, de façon cohérente, en essayant de coopérer ou de se concerter, en tout cas avec les autres grands pays de la planète. Voilà ce qu'on attend d'un président des États-Unis. C'est la première puissance mondiale, malgré tout. Donc,
ce que sous-entend cette question, c'est qu'en prenant cette mesure-là, il les protège.
Ah, oui, ça ne veut pas dire qu'il va les protéger avec ça. Mais c'est une façon pour lui de s'adresser à son public, et notamment à son électorat, pour leur dire « je suis avec vous et regardez, je suis suffisamment fort pour prendre cette décision-là », qui est, attention, qui est une mesure importante aussi sur le plan de la confiance, sur le plan diplomatique, sur le plan économique aussi. Donc, Donald Trump, on dit souvent, il a tendance à jouer avec les instruments du pouvoir. Là, il donne encore une fois l'exemple de quelqu'un qui prend des risques quand même malgré tout.
Mais la mesure prioritaire dans cette pandémie, c'est de tester tous les cas suspects. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le pays, le pays développé qui pratique le moins de tests au monde. Donc non, il ne protège pas du tout sa population.
En prenant cette mesure et de fermer ses frontières aux Européens. Pourquoi la France ne ferme-t-elle pas ses frontières? Justement, cette question.
C'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que l'OMS a vraiment dit que c'était la dernière mesure à prendre, que c'était tout à fait contre-productif. Donc je pense que Macron a raison de tenir le cap. Il a d'ailleurs critiqué les pays européens qui avaient pris cette décision. Et alors, on peut s'attendre à beaucoup de choses ce soir, mais certainement pas à cette mesure-là.
Mais ça serait un cap de plus en plus difficile à tenir à mesure que l'angoisse va monter, parce que l'angoisse, elle crée des réactions qui peuvent être irrationnelles, qu'on peut aussi comprendre. On entend beaucoup qu'il faut fermer toutes les écoles de France. Moi, j'ai parlé avec des infectiologues qui m'ont dit, si on ferme les écoles, où vont aller les enfants
chez
leurs grands-parents. Et beaucoup d'enfants, nous disent les infectiologues, sont asymptomatiques. On ne sait pas s'ils ont le coronavirus. Donc, vous voyez, parfois, les solutions sont complexes. Mais on peut comprendre aussi le truc, les voisins le font, il faut le faire absolument. Et c'est pour ça que ça va être difficile de tenir.
Trump veut-il vaincre le virus ou tout simplement couler l'Europe? Vous nous le disiez tout à l'heure, il y avait un peu une arrière-pensée politique derrière cette
décision. En tout cas, il en profite. Hein. Il prend cette excuse pour essayer de faire un croche-pied à l'Union européenne. Après, il faut, à charge pour l'Union européenne, de rétorquer. Hein. C'est vrai que là, on manque aussi de réponse de la part de l'Union européenne. À part sa désapprobation, on n'a pas vu grand-chose vis-à-vis comme réponse vis-à-vis des États-Unis.
Oui, c'est vrai que l'Europe s'est montrée agacée en disant que ce n'était pas forcément la bonne mesure et qu'elle n'était pas forcément adaptée, mais ce n'est pas allé au-delà. Juste pour bien être clair sur ce que fait Donald Trump, il est affecté, je veux dire, il a pris la conscience, à votre avis, la mesure de cette crise. Parce que quand on parle d'arrière-pensée politique dans un moment comme celui-ci, est-ce qu'il a pris la mesure?
C'est une bonne question. Ça, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'il a un problème, Donald Trump, et on l'a vu quand il balançait des rouleaux de sopalin aux réfugiés à Porto Rico, c'est l'empathie. C'est de montrer, de faire preuve d'empathie avec les Américains. Quand il rigole tout à l'heure, on l'a vu dans le sujet, je ne peux plus me toucher le visage, etc.
Ça me manque.
Voilà, ça me manque. Il parle de lui. Quand il dit aux médecins, c'est fou, les médecins sont étonnés à quel point je sais des choses. J'aurais dû faire médecin et pas président. Voilà, on est encore dans l'ego à la Trump. Et il y a un moment donné où dans les grandes crises, les Américains, ils veulent deux choses. Quelqu'un qui prend des décisions, là, c'est ce qu'il a fait, mais aussi qui exprime de l'empathie, du cœur et de l'action. Et là, ça peut lui manquer.
Les soins étant payants aux États-Unis, beaucoup ne pourront pas se faire dépister. Le système américain ne montre-t-il pas ses limites?
Si, et c'est là où vous voyez que c'est encore un pays qui a énormément de contradictions. Par exemple, l'État de Washington, qui est celui pour l'instant où il y a le plus de cas, si je ne me trompe, réclame de l'État fédéral une aide, une coopération, des moyens, enfin bref. Et Trump, plutôt que de se dire « je vais le faire », c'est utile, et puis même ça donnera l'exemple, et puis ce sera peut-être même une expérience qu'on pourra essayer de retenter ailleurs pour voir ça. Non ! L'État de Washington est démocrate, le gouverneur a été candidat à l'élection, il estime que ce n'est pas l'État fédéral. Et donc, vous voyez la limite du système, c'est-à-dire que les États fédérés ont du pouvoir aux États-Unis. La preuve, c'est que sur la question climatique, beaucoup ont décidé de se passer de l'État fédéral et de prendre des décisions par eux-mêmes. Et Donald Trump est fou furieux de voir que les États fédérés, de temps en temps, peuvent lever la tête. Et là, dans cette crise-là, on attend que, justement, la cohésion dont je parlais, c'est celle de se dire il n'y a plus de démocrates et plus de républicains.
C'est vrai.
Et là, on est en campagne, et c'est là où c'est terrible, c'est qu'il va y avoir un moment où on va se dire il joue beaucoup trop politique, c'est-à-dire il joue
et
sa
réélection. Et ça peut lui être reproché.
Mais bien sûr.
Pourquoi l'Europe n'est-elle pas unie pour aider l'Italie? Bon.
Et pourquoi l'Europe n'était pas unie pour aider la Grèce?
Bon.
On peut dupliquer la question. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'on s'est pris une grosse claque de la Chine, si je puis dire, puisque c'est elle qui envoie des appareils respiratoires et des masques à l'Italie. Alors, j'imagine que ça va changer dans les jours prochains. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, elle n'a pas de compétences sanitaires. Hein. Donc, c'est une première pour l'Europe. C'est normal qu'on s'y prenne mal. Et on espère
C'était un scénario qui n'avait pas été envisagé.
Et qui va certainement se reproduire. Donc, je pense que nous aurons les outils. Combien de temps faudra-t-il à l'économie pour se remettre de la crise économique provoquée par la crise sanitaire? Vous disiez tout à l'heure, ça peut repartir très vite. Et vous n'étiez pas forcément sur la même ligne toutes les deux.
Alors, tout dépend, parce que là, s'il y a une crise financière derrière, c'est-à-dire si Wall Street décroche, alors là, ça va mettre quand même beaucoup plus de temps, parce que c'est des effets en chaîne. C'est pour ça que Trump veut à tout prix trouver des solutions. Enfin, il a essayé avec la Fed en baissant ses taux, veut à tout prix maintenir cette bulle pour qu'elle n'explose pas, mais bon, là, elle est partie pour exploser. Et donc là, c'est très dangereux pour l'économie mondiale.
Bon. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci de terminer sur une note très positive. Allez, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.